des visages ensanglantés, des immeubles entiers effondrés à la une des journaux libanais ce matin. Beyrouth dévasté. Comment expliquer que près de 3000 tonnes de produits explosifs aient été stockés dans les hangars du port? Il y a plus de 100 morts. Ce matin, la France envoie des médecins, l'aide internationale s'organise. Page complète depuis Beyrouth et Paris, dès le début de ce journal. Nous irons ensuite près de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, où les pompiers continuent de lutter contre un vaste incendie. 2700 personnes évacuées.
Je suis en train de manger, nous sommes dit, direction la salle polyvalente, vous allez là-bas. Pas moins de rentrer sur Martigues.
Le refus de porter le masque hérisse toujours plus les médecins. Il sera bientôt obligatoire ce masque dans certains quartiers de Paris. La prime pour les aides à domicile, annoncée hier par le président, ne concernera pas tout le monde. Décryptage d'Adrien Beck. Et puis, dernier match amical ce soir pour le PSG avant la reprise de la Ligue des Champions.
Je suis persuadé que le Paris Saint-Germain est dans le rythme, ce qui permettra de peaufiner certaines choses entre joueurs, parce que sur le plan tactique, tout est calé.
Votre invité après ce journal, Sébastien.
Une deuxième vague de l'épidémie est à l'inéluctable. L'équilibre est fragile, dit le conseil scientifique. Risque-t-on de voir à nouveau l'épidémie nous échapper? Je reçois celui qui est chargé d'évaluer la réponse française, l'épidémiologiste Didier Pitet. Très belle matinée à vous tous, il est 8h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À titre de comparaison, l'explosion qui avait soufflé l'usine AZF de Toulouse en 2001 avait été provoquée par 300 tonnes de nitrate d'ammonium. Hier soir, c'est au moins 2700 tonnes, 10 fois plus, qui ont soufflé Beyrouth. On dormait sur une bombe atomique sans même le savoir. Image terrifiante donnée il y a quelques instants sur Europe 1 par l'un des responsables du patronat au Liban.
Il y a donc plus de 100 morts ce matin et près de 4000 blessés. Clotilde Mravko, vous êtes notre correspondante au Proche-Orient, la capitale libanaise se réveille sous le choc et encore fumante.
Oui, le souffle des deux explosions a changé le visage de la ville. Le port où ont eu lieu les déflagrations est dévasté. Les immeubles alentours sont éventrés comme si tout le quartier avait été bombardé. Les ruines sont encore fumantes. Les pompiers ont dû éteindre des incendies causés par les explosions jusque tard dans la soirée. Et dans la rue, les habitants, hagards, continuent de s'organiser pour chercher des blessés. Les secours fouillent toujours les décombres. Partout, le sol est jonché de débris d'immeubles, de vitrines cassées, de papiers et dossiers des bureaux environnants qui ont été soufflés par les explosions. Les hôpitaux sont débordés, certains ont d'ailleurs été partiellement endommagés. Les autorités devraient installer des hôpitaux de campagne pour parer au plus vite. Le gouvernement a convoqué un conseil des ministres ce matin et devrait déclarer l'état d'urgence pour 2 semaines. Aujourd'hui a été décrétée une journée de deuil national. Mais la question des responsabilités se pose désormais. Sur les ruines de Beyrouth, beaucoup ce matin pensent que les autorités auraient pu éviter ce nouveau drame.
Clotilde Mravko, correspondante d'Europe 1 au Proche-Orient en ligne de Jérusalem. Et dès cette nuit, le Premier ministre libanais a appelé la communauté internationale à l'aide. Une aide qui est en train de se mettre en place, Johanna Chabas, notamment côté français.
Oui, 2 avions militaires français vont partir en milieu de journée de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ils doivent arriver en fin d'après-midi au Liban. À leur bord, un détachement de la sécurité civile de 55 personnes, 15 tonnes de matériel et 6 tonnes de matériel sanitaire. Et le Liban a besoin de tout, notamment de médicaments, comme vous l'expliquez à l'instant, Sébastien, votre invité, un des représentants du patronat libanais. Le président Emmanuel Macron a aussi annoncé que des médecins urgentistes vont rejoindre au plus vite Beyrouth pour renforcer les hôpitaux de la capitale, déjà saturés à cause de l'épidémie de Covid-19. Le président Emmanuel Macron avait montré sa solidarité hier soir sur Twitter en écrivant en français et en arabe « La France se tient aux côtés du Liban, toujours ». Et Paris n'est pas la seule à venir en aide. Les États-Unis et l'Allemagne se sont aussi avancés. Même Israël, pourtant techniquement en guerre avec le Liban, a proposé une aide humanitaire et médicale.
Johanna Chabas, merci beaucoup. Et je vous rappelle donc ce bilan communiqué il y a quelques minutes par la Croix-Rouge libanaise. Désormais plus de 100 morts dans ces deux explosions à Beyrouth et près de 4000 victimes blessées.
Europe 1, 8h05.
C'est un autre sinistre, sans commune mesure, mais qui ravage lui les massifs des Bouches-du-Rhône. Plus de 1000 hectares parcourus par le feu près de Martigues, où nous retrouvons Stéphane Frangy pour Europe 1. Stéphane, plus de 2700 personnes ont dû être évacuées cette nuit par les pompiers, certaines sauvées de justesse, mais ça y est, les soldats du feu sont en train de prendre le dessus.
Oui. Oui, exactement. Cette situation compliquée, vous l'avez dit, des sauvetages de justesse parfois. Certains ont dû être procédés, ces sauvetages, par voie maritime. C'est passé très près. Beaucoup de gens ont passé d'ailleurs la nuit au camping, hein, pris au piège par ces flammes. C'est le cas. Écoutez le témoignage de Richard.
Non, moi je suis revenu sur carreau pour manger un morceau et impossible de repartir. C'était bloqué complètement. On a passé la nuit complète là. Ils sont en train de manger, ils nous ont dit oh, bon, direction la salle polyvalente, vous allez là-bas. Pas moins de rentrer sur Martigues.
Voilà. Et la situation voilà, qui reste vraiment compliquée ici, de nombreux axes routiers qui restent encore fermés ce matin. Mais voilà, comme vous le disiez, les sapeurs-pompiers sont bien plus optimistes hein, ce matin, malgré ces 1025 hectares de pinèdes.
Stéphane Frangy, oui, la liaison est difficile, mais on aura compris l'essentiel. Le vent s'est calmé, 1027 hectares de pinèdes ravagés, mais une situation qui se calme sur le front de cet incendie dans les Bouches-du-Rhône. Merci Stéphane. Un signal encourageant pour le spectacle vivant. Les festivals, spectacles ou concerts pourront à nouveau accueillir plus de 5000 personnes à partir du 15 août. Sous condition, c'est ce qu'a annoncé le ministère de la Culture. La décision devra être prise en concertation avec les préfets.
Et justement, le masque devrait devenir obligatoire à la fin de la semaine dans plusieurs quartiers de Paris. Sur les quais de Seine par exemple, ou encore sur les berges du canal Saint-Martin, ou sur les marchés couverts.
Et on entend de plus en plus, où que l'on se déplace, râler ceux qu'on va appeler les anti-masques, qui en font presque une question de résistance, le plus souvent en réalité, simplement question de confort. Illustration dans le Val d'Oise, où s'est rendu Pierre Herbulot.
Dans la halle du marché couvert, tout le monde a un masque, sur le visage pour la grande majorité, dans son sac pour Maria. Elle aimerait protéger les autres, mais c'est trop désagréable.
J'ai du mal à respirer, j'ai l'impression de m'évanouir, je transpire beaucoup. Je respecte les gens qui l'ont, hein, franchement, et je vous encourage.
Et pourtant, le masque est obligatoire les jours de marché.
Obligatoire, mais ça n'empêche pas d'être intelligent.
Alain, côté primeur, a le sien dans la poche de sa chemisette. Il considère l'arrêté qui lui impose de le porter comme une atteinte à son libre arbitre.
J'ai enlevé parce que, vous voyez, il n'y a plus personne devant les étals. Et le commerçant est à plus d'un mètre, il est derrière l'étal. On a le droit de penser quand même. Systématique, c'est bien pour les personnes qui n'arrivent pas à raisonner.
Elles sont belles, mes saucisses. Il est beau le masque autour de mon cou. Le boucher aussi s'arrange avec les règles. La police l'a rappelé à l'ordre à plusieurs reprises.
Ils nous font la réflexion la même. Vous devez servir les clients, vous devez avoir le masque. Et puis tout le monde doit avoir le masque.
Ils n'arrivent pas en revanche.
Pour l'instant, après, je ne sais pas. Si on est trop récidiviste, au bout d'un moment, peut-être qu'ils vont faire quelque chose. Mais je ne sais pas.
Cyriane non plus n'a jamais été verbalisé, alors qu'il est plutôt très négligent avec son masque dans les transports.
Plus des regards. Des regards appuyants. Souvent, les personnes âgées, et ça, qui nous regardent parce que soit on n'a pas bien mis notre masque ou on ne l'a pas sur nous.
Sauf que parfois, le ton monte et des tensions éclatent à l'entrée de certains magasins, raconte une coiffeuse qui n'accepte que des clients masqués.
Reportage à Herblay dans le Val d'Oise, signé Pierre Herbulot. De nouveaux tests prometteurs dans la recherche pour un vaccin. Après Moderna, c'est une autre société américaine, Novavax, qui assure avoir atteint de hauts niveaux d'anticorps chez quelques dizaines de volontaires de son vaccin expérimental.
Il est 8h08, la suite du journal sur Europe 1. Théo Manval, Sébastien Krebs.
L'actualité politique ce matin et le Premier ministre qui est attendu auprès des viticulteurs, cette fois dans le Cher. Jean Castex sera à 10h dans les vignobles de Sancerre où il doit annoncer de nouvelles aides.
Hier, ce sont les assistants à domicile qui ont vu officialiser une enveloppe de 180 millions d'euros. Adrien Beck, mesure promise de longue date, mais qui ne concernera pas vraiment tout le monde.
1000 euros pour chaque professionnel de l'aide à domicile, voilà l'objectif du gouvernement. Une prime qui serait versée d'ici Noël, sa mise en place a pris du retard. En fait, début mai, Matignon avait tranché, elle sera versée par les départements qui ont la tutelle de l'aide sociale. Sauf que plusieurs présidents de départements y ont vu une volonté de l'État de se décharger. D'autres n'avaient tout simplement pas les moyens de payer. Résultat, seuls 22 départements ont à ce stade voté cette prime. Avec cette accord, l'État va donc soulager en partie les collectivités. Reste que toutes ne seront pas obligées de la verser. C'est dans leur intérêt. Ils ne doivent pas oublier que les élections arrivent à grands pas, souligne un conseiller. Une prime qui concernera en tout cas uniquement les personnels à domicile qui dépendent du département, mais pas ceux pourtant nombreux, payés par exemple en chèque emploi-service.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Avant de retourner à Beyrouth, au Liban, pour un nouveau témoignage en direct, un mot de football, Théo. Où en est le Paris Saint-Germain à une semaine de son quart de finale de la Ligue des Champions?
Dernier match de préparation ce soir avant le grand saut la semaine prochaine contre l'Atalanta Bergame, PSG Sochaux à 19h dans un ciel parisien presque sans nuages, Jean-François Pérez.
À l'image de Neymar qui affirme vivre ses meilleurs moments à Paris, les joueurs du Paris Saint-Germain se montrent radieux ces jours-ci sur les réseaux sociaux. Même s'il a été acquis dans la douleur, le quadruplé de trophées nationaux n'y est pas étranger. L'ancien défenseur parisien Jimmy Algerino.
Je suis persuadé que le Paris Saint-Germain est dans le rythme. C'est vrai que ça a été des matchs en plus des matchs en jeu avec la Coupe et ce dernier match amical, qui permettra de peaufiner certaines choses entre joueurs, parce que là aujourd'hui, je pense que sur le plan tactique, tout est calé.
Face à Sochaux, dans un Parc des Princes à huis clos, Thomas Tuchel fera tourner son effectif. Objectif, zéro blessure. Neymar jouera, mais sans doute pas les autres Brésiliens, ni bien sûr Kylian Mbappé, dont la cheville se rétablit néanmoins plus vite que prévu, au point que Jimmy Algerino l'imagine déjà sur le terrain la semaine prochaine en Ligue des Champions face à Bergame.
Il sera, je pense, au minimum à 80% de ses capacités, au moins sur une mi-temps ou sur une heure de jeu. Quoi. On peut compter sur Kylian et sur le staff médical parisien pour qu'il soit prêt et surtout au niveau d'un quart de finale de Ligue des Champions.
Les Parisiens s'envoleront ce week-end pour le Portugal et un possible sacre européen. Dernière bonne nouvelle, pas de canicule attendue à Lisbonne. Les conditions de jeu seront optimales.
En tennis, Rafael Nadal n'ira pas à l'US Open cette année défendre son titre raison sanitaire. C'est ce qu'il annonce sur son compte Twitter. Le tournoi américain doit débuter à la fin du mois. On a quelques petits problèmes de liaison. On devait être à Beyrouth au début puis à la fin de ce journal. Ce ne sera pas possible finalement. Nouveau témoignage à suivre.
On va essayer d'y retourner dans les minutes
dans
qui
le
viennent pour de nouveaux témoignages en direct depuis Beyrouth. C'était le journal de Théo Manval sur Europe 1. Prochain journal à 8h30.